Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Undertale, développé par Toby Fox et sorti en 2015 sur plateforme de téléchargement. Nous interrogerons sa dimension générique en essayant de la catégoriser dans le spectre contemporain du jeu vidéo.
Première partie, présentation et problématique.
Il fallait bien lui consacrer une émission, après en avoir parlé, après l'avoir évoqué, après avoir commencé à l'étudier. Undertale a été l'un des jeux les plus populaires de ces deux dernières années, et quand bien même l'effet de surprise serait-il à présent passé, je persiste à y revenir et à le trouver absolument brillant. Malgré mon grand intérêt pour le jeu, je tâcherai d'être le plus factuel possible ici, de ne pas parler de son esthétisme mais uniquement de ses mécanismes et de leurs relations diverses. Ce qui attire ici mon attention, ce ne sera pas son histoire ou son fond, ni même les éléments qui permettent au joueur de l'achever sans porter le moindre coup. Je renvoie pour cela aux numéros 27 et 29 de cette émission, qui évoquent certes obliquement ces problématiques, mais qui permettent néanmoins d'en faire un panorama convenable. Ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est la question du genre de jeu auquel Undertale appartient de plein droit. Nous avions déjà développé la question du genre dans notre 23e numéro, consacré à la plateforme et à VVVVVV. On avait profité de cette émission pour développer, dans sa deuxième partie, une théorie de la généricité appliquée aux jeux vidéo, en distinguant ce qui relève du genre à proprement parler, soit de la catégorisation globale d'un jeu vidéo, de la direction prise initialement par les développeurs et qui donne une couleur au jeu, et ce qui relève de la séquence, qui est un moment circonstancié, annoncé et compartimenté, qui se distingue par son hétérogénéité au regard de l'ensemble du jeu. Si cette théorie du générique nous semble bien aller pour l'ensemble de la production vidéoludique passée et présente, Undertale semble néanmoins aller à l'encontre de ses préceptes, en gommant de son économie des parties majeures du genre auquel on l'associerait pourtant. Il ne s'agit cependant uniquement de perversion ou de détournement, car même la satire ne peut s'affranchir définitivement du cadre dans lequel elle résonne. Une poésie d'avant-garde, même reniant vers des contes métriques et rimes, reste de la poésie. Jacques le Fataliste demeure un roman, même s'il refuse le romanesque. Memento raconte une histoire, même si dans le désordre. Des jeux de rôle parodiques, le jeu vidéo en a connu avant Toby Fox, et Earthbound, ou la série des Mother globalement, ne serait-ce, outre d'être l'un des modèles avoués du créateur, a souvent étonné la critique par l'intelligence avec laquelle elle joue avec les codes de cette institution générique. S'il nous reste à l'étudier dans cette émission, on se reportera aux nombreuses sources qui en parlent, ne serait-ce que l'article que nous avions commis jadis pour Gros Pixel et qui évoque, sans en parler directement cependant, son caractère insolite. Reste cependant que malgré son indépendantisme, Mother reste un jeu de rôle, et du jeu de rôle en reprend-il les codes, la structure et la progression globale. Undertale va au-delà de cela. Il inverse parfaitement son système de valeurs, la progression chiffrée, les combats, l'expérience, étant in fine puni par le développeur. La nonchalance de même, puisque ne rien faire revient à ne rien accomplir. C'est dans un juste milieu un peu particulier, entre l'étrange et le déroutant, qu'Undertale se crée une identité. Mais, et ce sera là notre problématique, Undertale est-il le représentant dévoyé du role-playing game, ou bien crée-t-il un autre genre en lui-même ?
Deuxième partie, la nature a horreur du vide.
Pour celles et ceux qui n'auraient pas joué à Undertale, consciemment ou inconsciemment, je me permets d'en faire un résumé rapide. Undertale se présente comme un jeu inspiré de la série des Mother et met en scène un enfant prisonnier d'un monde souterrain peuplé de diverses créatures intelligentes. Au cours d'une aventure haute en couleurs, il parviendra à s'échapper et à retrouver le monde de la surface. L'originalité de l'aventure tient en sa conduite générale, puisqu'au contraire des autres jeux de rôle, le joueur peut parfaitement parvenir à ses fins sans tuer une seule créature. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les combats, mais de résoudre les confrontations d'une façon pacifique, en accomplissant une action qui permettra aux adversaires de ne plus vouloir vous faire du mal et de vous laisser poursuivre paisiblement votre route. Ce détail crucial, associé à des dialogues fort bien écrits, à des personnages hauts en couleur et, globalement, à une réalisation impressionnante pour une production indépendante, en fait un jeu atypique pour au moins deux raisons. Tout d'abord, pour son intégration d'un parcours pacifique de son aventure. L'épreuve n'est pas entièrement nouvelle dans le média, et l'on peut trouver en ligne, que ce soit manette en main ou par l'intermédiaire d'émulateurs, des complétions pacifiques de certains grands succès du média, Super Mario Bros, The Legend of Zelda, voire Contra ou Gradius. Undertale ne fait pas cependant de ce type de parcours une option un peu folle, un challenge non prévu initialement par les développeurs, mais trouvé par les joueurs, mais l'inclut parfaitement dans son économie et construit son propos, son histoire notamment, autour de lui. Ensuite, parce qu'il brouille constamment la frontière que nous évoquions à l'instant, entre le genre et la séquence. Son apparence extérieure, cette vue surplombante d'un univers découpé en grilles, nous renvoie aux grandes heures du jeu de rôle japonais, à la star d'Earthbound, qui est une source directe, mais également Final Fantasy et Dragon Quest. Mais son accent porté sur le pacifisme, l'atypisme des menus de combat, où l'on ne retrouve que peu les éléments stables du média, les sorts de magie, l'équipement, les pouvoirs spéciaux, le détail global de l'univers, qui n'est pas qu'un monde parsemé de villes indépendantes, mais bien une entité continue d'un bout à l'autre, tout cela donne davantage l'impression d'avoir affaire à une sorte de chapitre d'un ensemble plus grand, un grossissement d'une étape particulière de cet univers, ce qui n'est pas sans lien, une fois encore, avec son propos. Je reviens sur ce deuxième élément que je développe. Le genre d'un jeu vidéo, je l'ai dit plus haut, est un horizon d'attente, constitué partie par la représentation du genre à un moment donné de l'histoire du média, partie par les attributs envisagés par le joueur en amont de son aventure, selon sa propre représentation du dit genre. Leurs étiquettes sont généralement explicites, afin de faciliter leur compréhension initiale. La simulation reproduit la réalité, le puzzle game se fonde sur les énigmes, et le jeu de rôle, enfin, sur le fait de jouer un rôle, c'est-à-dire de construire un personnage avec un passé, une motivation, des capacités et une apparence. Quand bien même au cours de l'histoire du média, le jeu de rôle se serait-il affiné, nous retrouvons dès le commencement ces éléments. Même si les héros n'étaient pas nommés, même s'ils n'avaient pas une ligne de dialogue, ils se dirigeaient vers un objectif clair, avaient des pouvoirs spécifiques, s'équipaient d'objets magiques augmentant leurs capacités. Ces éléments, s'inspirant notamment d'une pen and paper occidentale et notamment de Donjons et Dragons, ne se retrouvent pas, ou pas en tant que tel, dans Undertale. Le héros n'a non seulement pas de nom clairement attribué, mais son sexe est laissé également à l'appréciation du joueur, sans que cela ne soit jamais un point du scénario. Il est entièrement muet dans les phases de dialogue, mais s'exprime parfois, lors des phases de combat et par ellipse, pour résoudre certains combats. On peut l'équiper de certains objets, mais ceux-ci ne sont jamais enchantés et empruntent uniquement à notre univers contemporain, sans rien de plus. Enfin, le héros n'a aucun pouvoir spécifique, si ce n'est que ses belles paroles et l'une ou l'autre action insignifiante. Tendre la main, hocher de la tête, s'asseoir et attendre. Le héros d'Undertale n'est cependant pas un anti-héros, dans la mesure où ce terme suppose, néanmoins, une progression, une évolution, des péripéties. Si l'on prend Don Quichotte, sans doute de tous l'exemple le plus célèbre, il s'inspire des héros de chevalerie, cherche à s'équiper en conséquence et tente de changer son monde. Le protagoniste de Toby Fox n'a pas cette ambition. Rien n'est jamais dit pour en faire un héros légendaire, ou même quelqu'un d'exceptionnel au regard des autres enfants qui se retrouvèrent dans le monde des démons. Si nous cherchons à superposer les codes du jeu de rôle, l'on se retrouvera étrangement dépourvu concernant le personnage principal. Il y a une histoire, certes, mais elle semble se dérouler indépendamment de notre concours ou, du moins, sans que notre concours précis soit important dans cette progression. Il en est différemment des personnages secondaires néanmoins, qui déconcentrent, dans le sens étymologique du terme, l'intérêt du jeu en nous faisant voyager dans sa périphérie. C'est un mouvement intrigant qui renverse la hiérarchie entre quête principale et quête secondaire dans un mouvement qui n'est pas sans rappeler ce que nous disions dans l'épisode 22 à propos de Five Nights at Freddy's et de l'intérêt dirigé vers les décors et les informations accessoires. C'est ici une autre caractéristique d'Undertale qui brouille un peu plus son lien avec son appartenance générique.
Troisième partie, premier rôle et second couteau.
Les personnages secondaires sont, dans le cadre de l'histoire d'un jeu de rôle, des éléments essentiels de la conduite de l'histoire. Ils sont comme autant de micro-objectifs justifiant le prochain chapitre d'une narration suivie, chapitres plus ou moins lâchement reliés entre eux. Leur intérêt est d'être une façon de ressort, propulsant l'intrigue tout en construisant, éventuellement, un arc narratif plus long par le retour de différents personnages. Undertale est différemment fait, dans la mesure où tous les personnages, des premiers aux derniers, demeureront au premier plan de l'aventure. Non seulement reviendront-ils très régulièrement, à l'image d'Undyne, de Metatone, de Sans ou de Papyrus, mais leur progression personnelle, notablement révélée dans la quête de la vraie fin du jeu, semble composer l'intérêt principal de la partie et la raison pour laquelle il aura soulevé autant les passions. Comparons les choses à Chrono Cross ou Final Fantasy VII par exemple, autre grand nom du jeu de rôle, ici japonais, sur cette question. Dans ces jeux, il est de nombreux personnages secondaires, mais lorsque ceux-ci commencent à prendre de l'importance, les voilà rejoindre l'équipe de façon plus ou moins temporaire. Chrono Cross représente sans doute le paroxysme de ce principe, puisque l'équipe compte plus de 40 personnages sélectionnables. Mais même Final Fantasy VII, à la distribution plus réduite, répond fort bien à cette tendance. Ce n'est pas dire que les jeux de rôle ne jouent point avec ce qui est devenu, au fur et à mesure du temps, un trope. Mais les habitués savent bien prédire lorsqu'un personnage commence, dans le cours d'une histoire, à prendre de l'ampleur au point d'en faire un héros putatif. Undertale aurait pu très volontiers suivre le même parcours, surtout compte tenu de sa proximité avec Earthbound, qui nous fait diriger une équipe de 4 héros. Pourtant, aucun des individus hauts en couleur que nous croiserons ne marcheront avec nous. Ils pourront être des amis, leur amitié étant même une condition sine qua non de l'obtention de la vraie fin du jeu, mais ils ne seront jamais, à proprement parler, des héros. Protagonistes, certes, mais toujours secondaires dans l'économie du jeu. Il y a alors une distance entre, d'un côté, le développement que leur accorde le jeu et, finalement, le rôle interactif qu'il possède effectivement. Cette distance remet en question l'appartenance générique d'Undertale, qui s'éloigne, se faisant des habitudes, fermement ancrées dans les usages, du jeu de rôle. Un autre genre de jeu, par ailleurs parodié d'Undertale, répond à cette structure. Les dating sims ou jeux de drague. Dans ce type particulier de jeux vidéo, notamment japonais, un personnage rencontrera une galerie de personnages bien déterminés pour, par la suite, entretenir une relation amoureuse avec un, ou plusieurs parfois d'entre eux, parfois avec aucun selon certains objectifs et certains critères déterminés par avance. Ces jeux se distinguent également par l'importance donnée au dialogue et au choix fait par le personnage joueur qui influence la personne avec lequel le héros sortira finalement. Dans une moindre mesure, nous retrouverions ce principe dans Undertale par l'intermédiaire des phases de combat tout du moins, qui peuvent être considérées comme autant de séquences de dating sim dans leur esprit, leur conduite, voire leur finalité, le jeu faisant parfois des passerelles évidentes avec ce genre-ci, comme avec les deux gardes qui font office de patrons de mi-étape et que nous devons faire tomber amoureux l'un de l'autre pour franchir la barrière pacifiquement. Un élément majeur nous empêche cependant de parfaitement franchir le Rubicon et de considérer Undertale comme l'équivalent d'un Katawa Shoujo ou d'un True Love. Le fait qu'il dispose déjà d'une séquence parodique, identifiée et délimitée, en l'objet de la seconde rencontre avec Papyrus, le sémillant squelette. Cette séquence a pour notre théorie deux inconvénients. D'une part, elle est bien trop à part du reste du jeu pour ne pas être considérée comme exogène et, partant, comme relevant d'un autre genre que le reste. D'autre part, le fait que ce soit une parodie dénote une distance avec le dit genre du dating sim, ce qui rend intenable l'affirmation d'une attribution générique simplex. La parodie n'est effectivement pas le détournement. Earthbound peut bien avoir un propos parodique et des mécanismes qui relèveraient de cet esprit au regard du jeu de rôle. Son ensemble n'est cependant pas une parodie. Il nous faut ainsi de la même façon considérer sa globalité comme quelque chose de bien sérieux, du moins dans son gameplay, pour que le décalage parodique de cette séquence avec Papyrus fonctionne. Et donc, nous ne pouvons le considérer, pas plus, comme un dating sim.
Quatrième partie, du détail au tout et réciproquement.
Des deux genres que nous avons rapidement analysés, le jeu de rôle d'une part, le dating sim ou la visual novel plus largement, d'autre part, aucun ne peut réellement convenir et il nous semble qu'en réalité, nous pourrions répéter nos analyses avec n'importe quel genre traditionnellement reconnu par la critique vidéoludique. Undertale ne parvient pas à se mouler dans une conception générique du jeu vidéo et ne propose qu'une succession séquentielle, plus ou moins autonome, consacrée qui à un combat, qui a une énigme, qui a une phase davantage dialoguée, où un choix doit être fait. Mais, et c'est ce qui est également intéressant, Undertale ne saurait non plus être le créateur d'un nouveau genre, quel qu'il soit, puisqu'il est à l'heure actuelle le seul de sa catégorie. Au contraire de jeux tels Braid ou Super Meat Boy, dont nous avons parlé respectivement dans notre seconde et 26e épisode, Undertale n'est pas une exploitation maximaliste, minimaliste ou inversée des signes fondateurs du genre auquel il ressemble, mais une perversion parfaite de ses différents codes. Partant, le jeu ferait partie de cette frange d'œuvres dites inclassables que l'on rencontre qui en littérature, qui au cinéma ou en musique, et qui emprunte à beaucoup sans pourtant se définir par rapport à quiconque. Le paradoxe attendu de la chose, c'est qu'en ne pouvant se classer, toutes ces œuvres tombent en réalité sous la même catégorie, les classant effectivement. Et cette catégorie, Gérard Genette et Pierre Bourdieu notamment l'ont étudiée et l'ont appelée l'avant-garde. Par définition, un jeu, une œuvre, inclassable, appartiendra à l'avant-garde, sous-entendu d'une dimension avancée au regard de la tradition générique, non encore découverte par l'ensemble des créateurs. L'image est celle d'une troupe d'explorateurs de l'armée, allant au-devant du bataillon et découvrant des pays qu'ils parcourront ultérieurement. C'est ainsi que l'avant-garde se fait avant-gardiste, exploitant des éléments, des concepts, des idées que l'on ne trouvait pas ailleurs ou, du moins, qui n'étaient pas aussi bien représentés. C'est ainsi que nous voyons qu'Undertale n'a rien, nous semble-t-il, de novateur de bout en bout. Si des petits instants sont réellement atypiques, l'ensemble reprend qui au jeu de rôle, qui à Earthbound, qui à tel ou tel jeu, ou tel concept. Mais Undertale est le premier qui relia tous ces éléments séquentiels, tous ces détails, dans un ensemble cohérent et dans une histoire suivie. C'est là quelque chose qui nous manquait dans notre théorie générique et qu'Undertale permet de faire. Relier la partie au tout, et réciproquement. Il le fait en construisant un réseau de signes, en faisant en sorte que les éléments qui font séquence soient eux-mêmes reliés au niveau supérieur d'analyse, par l'intermédiaire d'une histoire, d'une narration, plutôt par l'intermédiaire d'une continuité sémiotique, ce nous semble. Cette façon qu'a le jeu d'imbriquer des éléments les uns dans les autres, si elle peut paraître parfois téléphonée, permet néanmoins de tout maintenir en place. Ce peut être l'un des codes les plus attendus du média, déjà analysé dans notre 11e émission et que nous avions appelé les « boss précoces », en l'objet ici de Flowey la fleur. Ce peut être la résolution pacifique des combats, qui annonce les futures amitiés tissées. Ce peut être l'histoire se dévoilant dans le décor, à l'instar de Five Nights at Freddy's dont nous avons déjà parlé. Ce peut être les combats et les énigmes se répondant au long de la partie avec de nombreuses variations à l'image des différents combats contre Metaton. Bref, ce qui fonde Undertale non seulement comme un jeu intéressant, mais également comme un jeu de l'avant-garde, c'est sa texture, sa continuité générale. L'idée que ces éléments ne sont pas indépendants les uns des autres, mais constamment connectés. Si nous reprenons nos exemples précédents, Braid segmentait sa progression en autant de chapitres consacrés chacun à un mécanisme en particulier, mais ne parvenait pas à les réunir où que ce soit. Tout au plus avait-il son principe de narration inversée, mais rien de plus. Super Meat Boy n'a qu'un seul principe de jeu, et l'étend d'un bout à l'autre de son économie. Undertale participe de ces deux tendances. D'un côté, il propose un séquençage de sa progression et varie ses mécanismes. De l'autre, il relie l'ensemble de ceux-ci dans une progression sémiotiquement continue, rassemblée sous l'égide de l'avant-gardisme plutôt que de l'expérimental. Il crée une nouvelle catégorie s'émancipant de l'inspiration ou de la reprise de ses modèles pour atteindre une nouvelle catégorie.
Cinquième partie, le premier des suivants.
Cet aspect de la généricité, comme expression de l'avant-gardisme et comme reprise, conceptualisation d'une série de séquences plus ou moins indépendantes mais néanmoins connectées au moyen des signes, des indices que nous avons rapidement énumérés si haut et dont la plupart a fait l'objet d'une analyse dans notre émission, se retrouve au sein d'autres jeux, évidemment. La concrétisation de cet avant-gardisme, à dire vrai, est aisément visible. Il s'agit de la grande communauté de fans et de passionnés qui rapidement se prirent d'un amour entier et indéfectible pour le jeu, et il s'agit, partant, de la somme des théories, des analyses, des dessins, vidéos, musiques qui fleurirent peu après la sortie du jeu. On aurait bien tort de considérer la chose comme un produit de notre monde moderne, et il suffit de remonter qui, lors de la sortie du premier Star Wars, qui, lors des grandes aventures d'Arsène Lupin ou d'Edmond Dantès, plutôt avant pour Don Quichotte ou le Roland Furieux, pour comprendre que les lecteurs ou les spectateurs réagirent identiquement face à des œuvres qui, lors de leur parution respective, furent considérées comme une expression de l'avant-garde, qui est détachée, on le saura, du concept de popularité. Certes, ces œuvres, par leur originalité, se vendent souvent assez mal avant d'atteindre un statut d'intouchable. Mais certaines furent très populaires et furent les moteurs de mode, de tendance, marquées. L'avant-garde devient la tradition, et le genre qu'elle incarnait devient une étiquette aussi noble que les autres existantes auparavant. Mais pour ce faire, nous le disions précédemment, il faut qu'Undertale soit suivi, qu'il ait des turiféraires, et que ceci ne soit pas uniquement plastique, ou qu'il ne reprenne pas que la surface des choses, mais qu'il soit eux-mêmes des représentants de l'avant-garde. C'est là tout le paradoxe de ces œuvres. Si les élèves s'inspirent trop du maître, ils ne seront plus nouveaux et s'en éloigneront. Et si les élèves vont voir ailleurs, le lien avec le maître disparaît. Il y a donc comme une sorte d'étimon spirituel à reprendre, un juste milieu entre le mimétique et le poétique que ces jeux devront reprendre. Cet étimon spirituel, je le crois et concernant Undertale, ne vient pas tant de son pacifisme forcené, car les jeux contemplatifs, ou encore ceux où l'on ne peut tuer quiconque, ceux qui sont à la fois drôles et touchants, et ceux qui jouent la carte du rétro ou de la nostalgie, sont nombreux. En revanche, je n'en connais que peu qui jouent aussi bien sur le détail et l'ensemble, la séquentialité et le générique. Ce que propose Undertale, fondamentalement et à ce qu'il nous semble, ce n'est pas uniquement un propos reproductible à loisir ou un signe transférable à l'envie. Sa spécificité tient en son jeu avec le générique, à son refus de l'étiquette évidente. Cette caractéristique est la raison pour laquelle Undertale plut à tant de monde et déplut à tant de monde. Il intrigua et intéressa ceux qui n'aiment point les étiquettes, qui ont su compenser son hétérogénéité microscopique par sa continuité et sa cohérence de propos, son jeu avec le cadre et le genre. Et y déplut à celles et ceux qui ne virent point cette cohérence, les séquences restant malgré tout bien individualisées, qui cherchèrent à le rattacher à une étiquette particulière et qui, partant, furent indubitablement déçus, car il est ridicule lorsque jugé à l'aune des jeux traditionnels. Cela en fait-il un bon ou un mauvais jeu? Cette émission n'avait pas réellement vocation à répondre à cette question, quand bien même, nous le comprendrons, la difficulté d'établir une parenté générique à Undertale élimine, de fait, cette question critique, comme cela s'observe par ailleurs dans les autres formes médiatiques. Par sa construction même, Undertale ne peut se réduire à une grille de notation traditionnelle, et il doit sans doute être assimilé autrement. Il en va de tous les jeux qui, tout en se jouant et étant joués, sortent volontiers des sentiers battus. Ils devront bien être jugés, et ils devront bien être commentés. Et Undertale sera peut-être le premier à exiger cela de la part des commentateurs.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
Le 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance.
Ose créer un logo avant la première ligne de code doit être puni. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo. Avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté.
La Dev Team, c'est une fois par mois. Et c'est sur Radio Kawa.
Vivant, vous êtes vivant.